L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur les ondes de Radio Larzac pour un nouveau numéro de l'actu sur un plateau. En ce moment dans les rues, la mobilisation sociale est en cours contre la réforme des retraites et nous sommes ici pour vous la raconter. On vous propose un journal, ce début d'émission, pour revenir un peu en arrière et revoir le parcours de la réforme jusqu'ici et aussi c'est ce qu'elle pourrait devenir par la suite pour la réforme mais aussi pour le gouvernement. Et je suis accompagnée d'Alex pour cette première partie. Bonjour Alex.
Bonjour Sophia. Bonjour tout le monde.
Et en fin de mission, Souria nous rejoint pour présenter sa chronique cinéma sur le film Mon oncle de Jacques Tati. Et juste avant, on fait un focus sur la Cosinada, la saison musicale en Sauveraguet, portée par la coopérative Cervantes. Et nous serons au téléphone avec Clément Chauvet et Cinzia Minotti pour en parler. Et voilà pour ce programme. Donc on va commencer sans plus tarder.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
En cette première partie, donc un journal, et voici les titres.
Forte mobilisation sociale contre la réforme des retraites après son adoption via l'article 49.3. Les motions de censure présentées par les oppositions ce lundi ont été rejetées à 9 voix près. Décryptage d'un parcours houleux de cette réforme.
Olivier Dubois, correspondant au Mali pour Libération, Le Point et Jeune Afrique, a été libéré de sa captivité ce lundi 20 mars après près de 2 ans en tant qu'otage au Sahel.
Mobilisation contre la réforme des retraites mais aussi contre les méga-bassines. Ce week-end, en Poitou-Charentes, à l'appel du collectif Bastine Non Merci, un focus sur un grand projet jugé inadapté pour faire face à la sécheresse agricole.
Et enfin, nous revenons sur l'actualité locale. Ce dimanche 26 mars, une journée de sensibilisation sur l'autisme est organisée à Millau. L'association Millau 5 Sens sera présente aussi. Elle propose des soins non médicamenteux et des espaces de confort pour les personnes atteintes d'autisme et leurs parents. Alors Alex, en cette première partie, donc, nous revenons un peu sur l'actualité, mais on fait un pas en arrière parce qu'on parle beaucoup de la réforme de retraite, mais en fait, quand est-ce que tout a commencé?
Oui, ben, tout a commencé il y a 2 mois et en 2 mois, il s'est bien passé des choses. Donc le projet de loi a été dévoilé par Elisabeth Borne le 10 janvier et présenté en Conseil des ministres le 23 janvier. Mais déjà le 19 janvier, la mobilisation sociale commençait, 2 millions de manifestants et manifestantes. Alors, nous donnerons systématiquement les chiffres des syndicats pour les manifestants et les manifestantes. Le mardi 31 janvier, une deuxième journée de manifestation a lieu en France avec 2,8 millions de personnes qui sont dans les rues. Il s'agit de la plus importante manifestation nationale des 30 dernières années.
Oui, et pendant ce temps, donc, le texte a été examiné à l'Assemblée nationale au mois de février et ensuite au Sénat. Et députés et sénateurs ont dû respecter des délais contraints parce que cette réforme est présentée dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, le PLF-SSR. Donc, conformément à l'article 47 alinéa 1 de la Constitution, les débats pour ce type de loi ne peuvent pas durer plus que 50 jours, 5 quoi, et je cite, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Donc pour faire obstruction à cette démarche un peu contrainte, les députés de la France Insoumise ont déposé 70 000 amendements. Après, ils ont été obligés d'en retirer, évidemment. Mais c'est vraiment sur cette démarche-là, sur ce point, que le Conseil constitutionnel peut s'appuyer aujourd'hui pour annuler la réforme, mais on y reviendra plus tard.
Oui, donc on voit que dès le début, la loi est présentée dans un climat de contrainte et que ça réagit. Dans la rue aussi, ça réagit. Les 11 et 16 février, la mobilisation continue. Le texte lui arrive au Sénat le 17 février.
Oui, tout à fait. Au Sénat, les débats sont plus tranquilles parce que le Sénat a majorité de droite. Donc le texte a été adopté sans grand modification ni souci le 11 mars. Mais les mobilisations sociales, elles, se sont poursuivies. Et d'ailleurs, quelques jours avant, à Millau, on a assisté à des affrontements plutôt violents entre des gendarmes et des membres de la Confédération paysanne.
Oui, alors au niveau national, donc le 7 mars, c'est la 6e journée de mobilisation contre la réforme. Il y a quand même 3 500 000 personnes qui manifestent en France. Donc au niveau local, le 8 mars, a lieu au Viaduc une opération péage gratuit et collecte pour la Caisse des Grèves qui est menée pacifiquement et qui est organisée par le collectif Aveyronnais pour la grève reconductible dont effectivement la Confédération paysanne de l'Aveyron fait partie. Il y avait 70 personnes, les gendarmes y ont déchaîné une violence disproportionnée pour, sans sommation, faire évacuer le site. 3 paysans de la Confédération paysanne et 2 militantes sont blessés avec des blessures allant de 3 à 10 jours d'interruption du temps de travail. La semaine d'après, donc, c'est la journée de mobilisation du 15 mars. Dans les rues de Rodez, les organisations syndicales revendiquent 20 000 personnes, dont beaucoup d'agriculteurs, comme en février, c'est les mêmes chiffres. 2 bus sont venus de Millau, un de Saint-Afrique pour rassembler les manifestants et les manifestantes. 20 000 manifestants dans une ville de 25 000 habitants, c'est à noter quand même.
Tout
quoi.
À fait.
Après la manifestation, la Confédération paysanne est allée exprimer sa colère devant la préfecture, donnant suite donc aux violences policières du 8 mars dont on vient de parler. Où plusieurs membres du collectif aveyronnais avaient été blessés.
Peut-être sur ce point, on peut rappeler aussi que la préfecture a revendiqué une intervention modérée sur ce point et qu'on a essayé de les joindre, mais sans succès pour en parler. En tout cas, voilà, on voit que la mobilisation sociale en mars commence à se durcir et aussi la répression policière. Et en parallèle, donc, pour le texte de loi, c'est une instance composée de 7 sénateurs et 7 députés qui se réunissent, c'est la commission mixte paritaire. Et le but, c'est d'aboutir à une version commune du texte de loi, donc une version qui mette d'accord les deux chambres. Sauf que cette instance aussi reflète la majorité parlementaire, donc les points principaux du texte sont maintenus, notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et en revanche, il y a un vœu du député Les Républicains Aurélien Pradier qui concerne les carrières longues et ce vœu n'a pas été retenu. Donc Aurélien Pradier proposait que pour toute personne ayant cotisé au moins un trimestre avant ses 21 ans, il ne soit pas demandé de faire plus de 43 ans d'annuité de travail. Et c'est là donc qu'une partie de Républicains commence à se détacher de la majorité et annoncer ne pas vouloir soutenir le gouvernement dans cette réforme.
Là, c'est l'Assemblée qui est censée voter à nouveau le texte commun, mais le gouvernement commence du coup à craindre de ne pas avoir la majorité. Côté rue, le 15 mars, 1 700 000 personnes sont dans les rues à dire non à la réforme des retraites. Jeudi 16 mars, les organisations syndicales se donnent rendez-vous devant les permanences des députés pour les rappeler à leurs responsabilités envers leurs électeurs mobilisés depuis plusieurs semaines contre le projet. À Millau, le piquet de grève des agents du centre technique municipal continue et les cheminots poursuivent également leur grève.
Et donc, par crainte de voir sa majorité s'écrouler pour ce texte de loi, Elisabeth Borne a préféré engager la responsabilité de son gouvernement. Jeudi 16 mars, elle a fait usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, ce qui permet de faire adopter le texte sans le vote de l'Assemblée nationale, mais qui ouvre la voie aux motions de censure.
Oui, le 49-3, c'est pratique, mais il y a quand même un autre outil en face. Mais ça relance aussi un durcissement des manifestations. Plusieurs milliers de personnes en colère se rassemblent spontanément dans plusieurs villes de France pour protester contre le déclenchement de l'article 49-3. La répression se met en place aussi, 310 arrestations, dont 258 à Paris. Et là, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, pour le coup.
Oui, et les oppositions dans le Parlement donc, présentent des motions de censure qui ont peu de chances d'aboutir car la gauche ne veut pas soutenir celle de la droite et vice-versa. Mais il y a un petit groupe du centre, le groupe LIOT, Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, qui a présenté une motion de censure, elle, transpartisane. Donc la possibilité de renverser le gouvernement s'est faite un peu plus concrète ce lundi 20 mars dans l'après-midi. Mais cette motion de censure a été rejetée à 9 voix près. après, il aurait fallu qu'elle obtienne la majorité absolue, soit 287 voix, alors qu'elle en a obtenu 278. Et donc là, le mouvement social vraiment a explosé et s'est fait beaucoup plus dur et plus spontané dans la rue.
Le mouvement de contestation, effectivement, se prolonge. Les transports, les raffineries, les universités, les éboueurs, les artisans, les enseignants, les jeunes sont en grève. S'organisent des barrages, des opérations péage gratuits, des journées ports morts comme à Marseille et à Brest. Des routes sont bloquées comme le pont de Saint-Nazaire ou les autoroutes A55, A43. Des feux de palettes et des pneus brûlent un peu partout. À Millau, hier mercredi, des membres de l'intersyndicale accompagnés de gilets jaunes et de représentants de la Confédération paysanne se sont positionnés devant la sous-préfecture de Millau et les lycéens de Jean Vigo prévoient de faire un blocus qui doit être en cours.
En ce moment même, oui, devant leur établissement. Et donc, on voit bien que la rue ne lâche rien, mais les oppositions non plus, dans l'Assemblée nationale notamment. Ce mardi 21 mars, la NUPES a déposé un recours au Conseil constitutionnel. C'est un dossier d'une trentaine de pages où les députés essayent de démontrer que ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, dont je vous parlais tout à l'heure, est manifestement contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles et aux principes à valeur constitutionnelle. Donc c'est un dossier qui est en attente d'être examiné. Mais quelle est la suite donc pour le mouvement social ?
Alors le mouvement social, il pourrait donner suite à un référendum d'initiative qui pourrait être soumis au Conseil constitutionnel. L'institution doit d'abord examiner la recevabilité de ce référendum d'initiative. Après vérification, on pourrait s'ouvrir le recueil de signatures citoyennes afin de tenter d'atteindre un dixième des électeurs, soit 4 087 signatures dans un délai de 9 mois. Mais avec 3,5 millions de manifestants dans les rues, c'est jouable.
Tout à fait. En tout cas, voilà, cette réforme a posé fortement la question de la légitimité d'un gouvernement dont la majorité s'est jouée à 9 voix près. Donc, des possibilités s'offrent au chef de l'État, à Macron, maintenant, pour essayer de calmer la situation, de donner une suite. Et hier matin, la journaliste spécialiste de l'exécutif, Claire Gatinois, énumérait ces différentes possibilités au micro de France Culture, et on va l'écouter.
Alors, il a pas mal d'outils à sa disposition et peut-être qu'on peut commencer par les outils qu'il ne veut pas utiliser et qu'il a d'ores et déjà écarté, notamment hier devant ses députés. Il y a celle de la dissolution, une arme qu'il a maintes fois évoquée, mais davantage pour faire peur plutôt que pour véritablement l'utiliser, puisqu'on sait que ce serait assez contre-productif pour lui, puisque il y a peu de chances que les députés Renaissance sortent grandis d'une élection aujourd'hui, qui plus est après cet épisode sur la réforme des retraites. L'autre possibilité est d'organiser un référendum qu'appelle une partie des députés pour remettre à plat, relégitimer d'une certaine façon la réforme des retraites en faisant appel à la population dans son ensemble. Un autre outil qu'Emmanuel Macron, on peut d'ores et déjà le pronostiquer, n'utilisera pas puisque il sait a priori qu'il sera perdant. On disait tout à l'heure, cette réforme est hautement impopulaire. Il lui reste donc le remaniement.
Le remaniement que Claire Gatinois évoque s'annonce lui aussi improbable. Macron a pris la parole ce mercredi midi sur TF1. Il n'a pas l'intention de remettre en cause sa réforme qui entrera en vigueur d'ici la fin de l'année. Il réitère sa confiance à Elisabeth Borne. Il condamne les manifestations violentes et montre sa volonté d'aller de l'avant. Après l'intervention d'Emmanuel Macron, les opposants à la réforme sont toujours plus mobilisés et en Aveyron, pour ce 23 mars, les syndicats annoncent un raz-de-marée de colère à Rodez, là où se rassemblent tous les opposants et opposantes à la réforme du département. Voilà, en tous les cas, avec cette réforme, on aura appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la République.
Ça, c'est sûr, oui. Et il y a encore des suites qu'on peut voir, justement, avec le Conseil constitutionnel, le référendum. Donc voilà, on suivra, en tout cas, l'actualité du mouvement social et aussi du gouvernement, bien évidemment. Et donc, vous pouvez entendre la suite sur Radio Larzac. Peut-être préciser aussi que pour préparer cette revue de presse journal, on a utilisé plusieurs sources.
Le Monde.
L'Union, La Dépêche.
Le Parisien, Libération.
Un reporter, le Midi à Voix, le Centre Presse et puis aussi les radios comme France Culture. Donc merci beaucoup Alex.
Merci Sophia.
On passe maintenant aux autres sujets de l'actualité. Après 711 jours en otage au Sahel, le journaliste Olivier Dubois est libre. Il est journaliste indépendant, correspondant de Libération, du Point et de Jeune Afrique au Mali. Il avait été enlevé à Gao le 8 avril 2021. Olivier Dubois était aux mains de JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis son enlèvement, il était apparu dans deux vidéos diffusées par ses ravisseurs en mai 2021 puis en mars 2022 et il est rentré en France ce mardi 21 mars. Il a été accueilli par sa famille et par le président de la République. On a parlé beaucoup de mobilisation sociale en ce début d'émission et il y en a une de plus ce week-end qui justement s'appelle « Pas une bassine de plus » dans le Poitou-Charentes. C'est du 24 au 26 mars au programme Table Ronde, manifestation à Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon, projection et fanfare. Tout le programme est disponible sur bassinesnomerci.fr. Et pour rappel, les méga-bassines consistent à stocker de l'eau via le pompage dans les nappes phréatiques ou dans les cours d'eau en hiver, donc au moment où les précipitations sont plus importantes. Elles peuvent stocker jusqu'à 650 000 mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de 260 piscines olympiques. Et cette eau serait utilisée pour irriguer l'été. Dans le département des Deux-Sèvres, qui abrite la deuxième zone humide de France, un projet de 16 retenues d'eau de ce type a été élaboré par un groupement de 400 agriculteurs réunis dans la coopérative de l'eau. Les militants et les opposants considèrent que le pompage dans les nappes phréatiques en période hivernale, au moment où ces nappes sont censées être en train de se recharger, les empêcherait en fait de se remplir en amont de l'été à venir. Et les opposants dénoncent aussi l'accaparement de l'eau par une petite partie des agriculteurs, ceux qui en utilisent le plus évidemment, alors que la sécheresse, elle, est de plus en plus importante pour tout le monde. On termine sur l'actualité locale. Comme chaque année depuis sa création, l'association Miautisme organise la fête de l'autisme qui a lieu nationalement le 2 avril. À Millau, le rendez-vous est donné cette année pour dimanche 26 mars, donc ce dimanche à la salle de fête de 14h à 18h. L'association Millau 500 sera aussi présente à cette occasion. C'est une association qui propose des séances Snoozelen, une pratique de stimulation sensorielle dans une roulotte. Et on écoute Brigitte Dessault nous en parler.
C'est vraiment en fait un outil qui permet aux gens, par leur sensorialité, de pouvoir trouver toutes les ressources en eux, qui sont en eux, mais qu'ils ne vont pas chercher parce que on n'utilise pas assez nos sens, en fait. Les trois principaux, ce serait l'auditif, le visuel et le kinesthésique. Ça permet de vraiment entrer en communication par la relation avec la personne au moment où elle est, où elle se trouve.
Donc ces pratiques peuvent bénéficier aux personnes autistes puisque l'espace de détente de la roulotte offre un cadre idéal pour établir une communication, par exemple entre un enfant autiste et un de ses parents.
Quand on n'est pas dans le mental, les personnes comme les autistes surtout, ils ont une sensorialité qui est beaucoup plus développée. Ça va permettre vraiment de les lier. Le but, c'est ça aussi de la roulotte, c'est d'être dans un endroit carrément sécurisé, très enveloppant et du coup de pouvoir rentrer en soi, d'avoir aucune interaction pour pouvoir se ressourcer.
Donc la roulotte de Millau 500 sera présente ce dimanche 26 mars à l'occasion de la journée de sensibilisation à l'autisme. Ça se passe de 14h à 18h à la salle de fête de Millau. Au programme, il y aura aussi des jeux en bois, des crêpes, des pâtisseries, des animations sportives et de la danse. Et c'est la fin de ce journal. Merci encore à Alex pour m'avoir accompagné. On a parlé des méga-bassines, entre autres, et donc on écoute la bassine, la ronde du Quercy des Tabanards.
Venez, venez, camarades, aux bassines, là, aux bassines.
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 Pour faire le premier pas, la bassine, elle se videra.
Pour faire le premier pas, la bassine, elle se videra.
Le grillage qui l'enserre, la bassine, là, la bassine.
Le grillage qui l'enserre, la bassine. Là, la bassine.
La pince le coupera, la bassine elle se videra.
La pince le coupera, la bassine elle se videra.
La pompe qui l'abreuve, la bassine là, la bassine.
La pompe qui l'abreuve, la bassine là, la bassine.
La meuleuse la coupera et la confe la volera.
La meuleuse la coupera et la confe la volera.
Le gendarme qui arrive aux bassines là, aux bassines.
Le gendarme qui arrive au bassino là, au bassine.
La pierre le chasseur à la bassine, elle se videra.
La pierre le chasseur à la bassine, elle se videra.
L'irrigant qui la pleure, oh, sa bassine, oh, là, sa bassine.
L'irrigant qui la pleure, sa bassine, oh, là, sa bassine.
Son maïs poussera pas, nous on en rigolera.
Son maïs poussera pas, nous on en rigolera.
Des bassines, là, des bassines.
L'agriculture de merde, des bassines, là, des bassines.
On la désarmera, la FNSEA.
On la désarmera, la FNSEA.
Pour méfier de l'eau qui dort dans ces bassines, là, ces bassines.
Pour méfier de l'eau qui dort, les bassines, dans les bassines.
Quand elle débordera, qui sait ce qu'elle emportera.
Quand elle débordera, qui sait ce qu'elle emportera.
De retour dans l'actu sur un plateau sur Radio Larzac et c'est Clément Chauvet qui nous a rejoint au téléphone. Bonjour Clément.
Bonjour.
Donc c'est pour parler de la Cousinada, la saison musicale autour de Sévrac d'Aveyron portée par la coopérative Cervantes. La saison musicale a déjà démarré fin janvier et le prochain rendez-vous est pour le 7 avril au Café Moderne à Sévrac d'Aveyron pour un concert de Romain Baudouin. Donc la cousinada, c'est, je suppose, comme une cousinade, donc une réunion de personnes ayant un commun des ancêtres. Et donc Clément, comment vous faites revivre ces ancêtres, cette culture voilà, traditionnelle à travers la musique ?
Bien oui, c'est effectivement ça. La cousinade, elle est portée depuis l'année dernière par Cervantes, qui est une coopérative artistique qui défend des esthétiques... artistique autour du coup de la musique et du conte et en langue occitane généralement et donc souvent autour de créations contemporaines tirées du coup de collectage ou en tout cas de musique traditionnelle et l'objectif de la saison c'est d'inviter des artistes qui sont un peu dans la même qui sont dans le même cheminement artistique que les artistes de Cervantes, c'est-à-dire qui vont chercher un peu dans le matériau populaire traditionnel, en tout cas qui vont chercher dans des collectages de l'inspiration et de la matière pour faire de la création contemporaine. Et donc c'est le cas de Romain Baudouin qui va venir le 7 avril, qui est un des membres fondateurs du groupe Artus, du coup, en Gascogne, et qui, avec sa vie à la roue et divers effets électroniques...
Il fait revivre, en fait, ces musiques traditionnelles.
Voilà, une création autour de collectage... qu'il a effectué du coup dans l'Allier et donc clairement il remet en scène une création très contemporaine sur du matériau traditionnel, voilà.
Oui, et donc tu as parlé d'instruments traditionnels et aussi de langues. Et en effet, cette saison est marquée par les musiques populaires en plusieurs langues, on va y revenir, mais aussi tournée beaucoup vers le sud de la France et aussi vers le sud de ces pays voisins comme l'Italie, par exemple.
Oui, cette année, on a mis l'accent là-dessus. On a invité cette année, du coup, il y a Maura Guerrera, qui est sicilienne, qui est venue nous présenter... du coup, le travail qu'elle a fait avec des bergers siciliens, voilà, en Méditerranée. Le 21 avril, il y a un grand bal à la Maison des Dolmens à Buzyns, où on invite Alberi Sonori, qui est un groupe qui est basé dans le Toulousain, mais qui est originaire du sud de l'Italie.
Et oui, on va en parler tout à l'heure aussi avec, avec Cinzia.
Voilà, c'est ça, avec Cinzia, qui est membre d'Alberi Sonori, et qui, du coup, eux sont clairement sur la musique à danser, tarentelle, pizzicata, du sud de l'Italie, des Pouilles et de Calabre. Et oui, les langues au centre, le Maora s'exprime en sicilien, Benjamin en provençal, Laurent Cavalier en languedocien. Chaque fois, voilà, c'était ça la cousinade. On avait envie d'inviter des gens qui défendent aussi leur langue régionale, face un petit peu à la monoculture qui s'installe de plus en plus. Voilà.
Oui, et d'ailleurs, comment dans tous ces groupes-là, on retrouve un peu un lien entre la tradition et la modernité, finalement?
Ben, c'est simple, hein, modernité, parce que c'est ancré dans le présent, et que de toute manière, la tradition, ce n'est que une évolution de transmission, de choses qui se transmettent et qui évoluent petit à petit, et c'est ça qui fait tradition. Contrairement à ce qu'on pourrait appeler un folklore qui est lui clairement figé à une époque et qui ne bougera pas, alors que la tradition est en constant mouvement, et donc la tradition est finalement très très moderne.
Tout à fait. Elle est moderne et elle attire, je pense, aussi du public, parce que donc c'est la deuxième édition de la Cousinada. Quel a été le retour, quelle est l'ambiance en tout cas autour de ces concerts?
L'année dernière, on a été agréablement surpris. Il y a eu beaucoup de monde. L'objectif, c'est aussi de faire vivre le Sèvre à Gué, en tout cas, de proposer des événements culturels en plein hiver, en dehors de la saison touristique, donc pour les habitants, clairement. Et donc, essentiellement autour du Café Moderne, qui est un café un peu historique, qui accueille des concerts depuis très très longtemps, à Sèvres-le-Château. Donc du coup, l'année dernière, le public a répondu présent parce que on sortait aussi d'une période assez obscure, assez sombre au niveau culturel, donc il y a eu une belle présence. Cette année, ça a eu un peu plus de mal à démarrer. Il a fait très 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 froid. Il y a beaucoup de neige aussi. Les gens sont là quand même, sont présents et sont curieux aussi de découvrir les propositions artistiques assez originales finalement, en tout cas qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir et d'entendre sur les médias dominants, quoi. Voilà.
Oui, et toi, tu fais partie de la coopérative Cervantes depuis un moment déjà. Est-ce que tu as vu un intérêt accru, en tout cas, vers ces traditions, ces ancêtres? Parce que justement, pendant le Covid aussi, beaucoup de personnes se sont mises un peu à regarder à l'arrière dans l'histoire de leur famille.
Ben, en fait, je ne sais pas s'il y a un intérêt accru. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai... La coopérative Cervantes défend quand même une dizaine de groupes et de musiciens sur de la production, un label avec des disques, sur de l'administratif, sur un peu de la gestion un petit peu de leur parcours musical et artistique, ainsi que des conteurs et des conteuses. Et oui, effectivement, là, on voit un vrai intérêt et des pouvoirs publics et du public, etc., autour de ces esthétiques-là, puisque la coopérative se porte bien et qu'elle est... force de proposition et elle reçoit encore effectivement beaucoup de demandes d'accompagnement. Donc la création en langue régionale et la création autour de ces esthétiques, on va dire néo-traditionnelles, se porte plutôt bien, parce qu'il y a beaucoup d'artistes en tout cas qui s'y penchent, quoi. Voilà.
Oui, et d'ailleurs, la coopérative a aussi vocation à soutenir les artistes du territoire, mais aussi dans le territoire même, comme un levier en fait, de développement, si on veut.
Oui, c'est ça. D'où, les actions qui sont menées aussi sur le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, la coopérative, les artistes qui sont dans la coopérative sont résident sur tout le territoire occitan, on va dire, pas seulement en Aveyron. Il y en a quelques-uns en Aveyron, mais il y en a aussi dans le Languedoc, il y en a dans le Toulousain, etc. Il y en a dans le Limousin. C'est clairement la cousinade et clairement une volonté d'implanter une proposition culturelle dans le Sévéraguet, en Aveyron, là où se trouve le siège social de la coopérative. Donc la semaine dernière, il y a eu la Tutakunt, qui est un festival de contes mené par Cervantes, où à cette occasion-là, des chanteurs et des chanteuses de la coopérative qui sont venus faire des réveillettes dans des tout petits villages du Sévéraguet. Oui, la volonté, elle est clairement d'implanter l'action aussi là où se trouve la coopérative d'ancrer finalement et de pas être quelque chose qui est hors sol, mais en tout cas d'être conscient que l'action se mène aussi à cet endroit-là, quoi.
Oui, et donc les artistes, par exemple, qui se produisent tout le long de la saison musicale, ils sont tous et toutes associés à la coopérative ?
Et non, justement, c'est le principe de la cousinade, c'est de faire venir donc d'autres artistes qui sont dans d'autres organisations, dans d'autres productions, mais qui ont la même démarche un petit peu. En tout cas, il y a quand même quelque chose de parallèle, la même démarche artistique que les artistes de Cervantes. Donc, il y en a quelques-uns d'artistes de Cervantes. Laurent Cavalier est un membre sociétaire de la coopérative. Il est venu là à la cousinade. Ce sont des artistes qui viennent d'autres organisations. Romain Baudouin a monté Art Brut, qui est une grosse association de production de musique néo-traditionnelle à Pau, en Gascogne et dans le Béarn. Bourrasque, pareil, qui est le groupe de musique à danser du Centre France, donc essentiellement de Bourré, viennent de monter, pareil, une maison de production, en Corrèze. C'est plus un rapprochement aussi, et puis une manière de dire qu'on agit un peu en parallèle, en se reconnaissant les uns les autres, comme étant dans les mêmes drails, les mêmes esthétiques. Voilà.
Et donc, après la Cousinada qui se termine début mai, quels sont les autres projets de la coopérative Cervantes ?
La coopérative est toujours a toujours des projets dans les tiroirs et en cours. Il y a des disques en préparation, des disques en sortie, notamment un enregistrement de disques d'un groupe qui s'appelle CXK. La Malcoiffée qui est toujours en résidence, en création sur un nouveau répertoire. Il se parle aussi de faire rentrer de nouveaux artistes dans la coopérative. Des projets de territoire aussi avec le parc régional des Grands Causses, autour de résidences de création dans le Comte. Donc il y a toujours 5-6 projets sur le feu en cours de réalisation.
Toujours très active en tout cas sur le territoire. Et le prochain rendez-vous, donc, c'est le 7 avril à 21h au Café Moderne à Sévrac d'Aveyron pour le concert de Romain Baudouin qui joue de la vieille à roue. De la vielle à roue. Donc n'hésitez pas à y aller. Et merci beaucoup à Clément Chauvet, donc associé de la coopérative Cervantes, pour avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et donc on va continuer de parler de Cousinada dans cette émission, en particulier du projet Alberi Sonori. Ce sera Cinzia qui va nous rejoindre au téléphone. Mais juste avant, on vous donne un avant-goût de leur musique avec la Pizzica di Ostuni.
pizzicata, pizzicata la tarantella, sottale un giro, giro di la moneta. Madonna, pizzicata, pizzicata la scarazzona, sottale un giro, giro di Luca Sona. Fa ponda, 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 qui li cime, qui li ponda, qui li cime, qui li ponda, tutte quante sono. E ponda, 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 qui li cime, qui li ponda, qui li cime, qui li ponda, tutte quante sono.
C'était la Pizzica di Ostuni sur Radio Larzac, interprétée par Alberi Sonori, un groupe de musique populaire du sud de l'Italie. Et nous sommes au téléphone avec Cinzia Minotti, chanteuse de ce groupe. Bonjour.
Bonjour, salut.
Donc vous vous produisez le vendredi 21 avril à la Maison des Dolmens de Buzyn, dans le cadre de la Cousinada, la saison musicale de la coopérative Cervantes dont on a parlé juste avant. Mais d'abord Cinzia, donc Alberi Sonori, ça veut dire arbre sonore. Pourquoi vous avez choisi ce nom?
Bon, c'est un nom qu'on a choisi il y a longtemps, parce que voilà, ce projet il est né en 2010 en Italie. Et en fait, voilà, avoir choisi cette nom, c'était un peu l'idée d'être en même temps enraciné sur une terre, sur un contexte. Donc, comme l'arbre, il a ses racines, il ne peut pas être divisé par la terre où il est né, mais en même temps, il y a ses branches qu'ils peuvent regarder ailleurs, il y a les graines des arbres qui peuvent voyager très loin. Et en fait, ça nous plaisait beaucoup cette idée d'être enraciné, mais en même temps, la musique, c'est quelque chose qui peut voyager, peut arriver très loin et peut amener avec elle-même tous les choses de sa terre d'origine, quoi. Donc voilà, et comme moi, comme je suis aussi un peu, voilà, je suis une des porteuses de ces projets, des créatrices de ces projets, du coup j'aime bien cet élément naturel, cet symbole de l'arbre, Et donc, voilà, on a choisi. Et après, c'est resté comme ça aussi. Si des fois, on peut réfléchir qu'on aurait pu choisir un autre nom. Mais voilà, c'était toujours ça. Et on l'aime bien, voilà.
Oui, tout à fait, ça rend bien. Parce que comme tu l'as dit, c'est une musique donc, qui voyage entre le sud de l'Italie et la France. En particulier, vous produisez en Occitanie. Quel est le rapport en fait, que tu vois aux musiques traditionnelles en France et en Italie? Est-ce qu'il y a des différences?
Bon, carrément, les musiques traditionnelles, elles sont toutes différentes, mais en même temps, il y a toujours des fils rouges qu'on peut retrouver dans toutes les musiques traditionnelles du monde. Parce que beaucoup de fois, les musiques traditionnelles, elles naissent parce qu'elles sont la réponse de certains besoins de l'homme. Moi, j'aime bien toujours dire que des fois, la musique traditionnelle, ce sont des réponses à les angoisses du quotidien. Si on pense à l'utilisation qu'on faisait aujourd'hui, carrément, les contextes, ils sont beaucoup changés. On fait de la musique traditionnelle sur scène, il y a des autres objectifs. Mais il faut savoir que ces musiques-là, au tout début, elles avaient en fonction. C'était des musiques pour donner des messages, c'était des musiques pour se soigner, c'était des musiques pour, je sais pas, accompagner le travail. Donc, en fait, derrière tout ça, il y avait des fonctionnalités qui aujourd'hui, carrément, elles sont changées parce que le contexte, il change. Mais le fait de se demander pourquoi cette musique, elles sont encore vivantes et elles ont la capacité de communiquer encore quelque chose. Bon, ça, pour moi, dans ça, il y a, comme on dit, la réponse de pourquoi nous, aujourd'hui, on joue encore cette musique. Parce que la force de communiquer et de se réadapter au nouveau contexte de ces musiques et donc d'amener des nouvelles fonctionnalités, c'est ça le pouvoir et c'est qui fait la beauté de cette musique. Donc, en fait, il y a des différences, mais on peut retrouver des messages en commun. Voilà.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est toujours l'occasion de se rassembler, la musique, donc hier comme aujourd'hui, si on veut. Et dans votre site, vous écrivez quelque chose que j'ai trouvé très juste, c'est-à-dire que le mot tradition porte dans sa racine le mot trahir. Donc, comment vous trouvez un équilibre, en fait, entre la trahison, entre guillemets, de ces musiques et la nécessité de les faire vivre, les faire voyager dans d'autres contextes, comme tu l'as dit, dans d'autres pays?
Bon, effectivement, tu as ciblé un concept que j'aime beaucoup. Donc, parce que souvent, qu'il n'est pas dans ce milieu, on pense que la tradition, c'est quelque chose de figé, qui change jamais. Mais en fait, si on pense qu'au tout début, la tradition, c'était quelque chose qui passait de bouche à oreille ou dans l'imitation, et bon, déjà, quelque chose qui passe de moi à la personne qui est à côté de moi, c'est déjà une manière de trahir parce que ça sera jamais pareil. Donc, en fait, la musique traditionnelle, au contraire de ce qu'on pense, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, toujours en transformation. Et pour venir un peu, pour cibler un peu mieux ta question, quel est un peu l'objectif de faire quelque chose de traditionnel, mais en même temps de pouvoir trahir? C'est de retrouver, comme on dit, un concept de liberté. En fait, je retrouve dans cette musique une liberté qui peut-être des fois on retrouve pas dans des autres genres de musique ou des fois on reste un peu, comme on dit, figé. On pense qu'on peut pas aller plus loin. Il faut le faire comme ça. Et en fait, quand on pense à la musique traditionnelle, Anna, la musique traditionnelle, il faut la refaire comme on l'a fait ici dans le passé. En fait, non, parce que c'est déjà différent du passé. Et du coup, cette liberté de pouvoir trahir, c'est dans ça que je trouve la cohérence de pouvoir amener la musique d'ailleurs dans un autre contexte. Parce que aussi, si les gens ils connaissent pas le contexte dans lequel ces musiques elles sont nées, ils ne connaissent rien de tout. Parce qu'il faut savoir que notre public, c'est pas seulement des personnes qui connaissent la musique traditionnelle, donc qui savent ce qui se passe dans cet univers. Mais il y a aussi des gens qui sont totalement à jeûne. Si ça se dit comme ça en français, ils peuvent quand même retrouver quelque chose dans ta manière de trahir ou de réinterpréter la musique ou de lui donner un nouveau contexte, un nouveau message. Donc, pour moi, là-dedans, il y a la réponse à tout ça. Et surtout parce que, une fois comme aujourd'hui, en fait, on n'a jamais arrêté d'avoir nos questions par rapport à la vie, à l'univers, à notre angoisse du quotidien. Et pouvoir avoir quelque chose, parce que la musique, c'est beaucoup, quelque chose de très puissant, qui ça nous donne encore une manière pour pouvoir avancer dans notre angoisse du quotidien. Bon, là, il y a le pouvoir de cette trahison, quoi.
Tout à fait. Et donc, vous avez puisé, je pense, dans un répertoire traditionnel du sud de l'Italie. Et qu'est-ce que vous apportez à ces chants, à ces musiques? Comment vous travaillez, par exemple?
Alors, comment on travaille? On a différentes manières de travailler. Carrément, notre manière de travailler, il a changé dans le temps. Parce que c'est toujours aussi pour nous une évolution dans notre manière de faire la musique, carrément. Et des fois, il faut savoir qu'il y a des musiques qui dans les mélodies originaires ou dans la manière d'être encore fait aujourd'hui, parce que je souligne qu'il y a des musiques qui sont encore toujours vivantes dans le sud de l'Italie. Donc des musiques qui ont encore une fonctionnalité et qu'on peut retrouver. Et je disais, ils gardent une puissance et une telle beauté que des fois, c'est vraiment dommage de le transformer, de le réinterpréter, que des fois, ça suffit juste l'interprétation pareille, comme ils ont fait, ils sont écoutés sur place, que ça suffit. Et donc ça, c'est un premier travail le plus simple qu'on fait ici dans le passé. Mais quand le temps, comme je disais, dans le temps, on change de manière de faire. Donc il y a quand même des morceaux qui sont faits totalement, arrangés totalement par nous, par exemple. C'est-à-dire des fois, on retrouve, parce que comme on travaille pas mal sur des collectages, des fois, il y a des textes, des chansons dans lesquelles la mélodie était perdu et le texte sont tellement beaux, donc c'est là que par exemple il y a notre travail de reconstruire par exemple la mélodie là où c'est perdu parce qu'on n'a pas des traces, ou par exemple on a des mélodies où on a perdu les mots, les paroles, donc on se prend la liberté de réécrire des mots, des paroles. Ou des fois, là dernièrement, dû changer quelques messages ou quelques phrases qui ça ne plaît pas trop. Parce que des fois, il faut savoir qu'il y avait pas mal dans le passé de textes, des choses un peu machistes, un peu où la philosophie de la vie, c'était un peu différent de comme on la voit aujourd'hui. Du coup, la liberté de pouvoir réécrire, de pouvoir donner des messages différents. Donc, donner
un nouveau souffle aussi.
Oui, un nouveau souffle, c'est ça. Donc, il y a différents. Donc, c'est pas un chemin unique. Chaque morceau, on décide quoi faire avec ces morceaux. Si le réinterpréter au 100%, s'il y a une partie liée que à la mélodie à réinterpréter ou qu'il y a les mots qui sont pas là. Donc, c'est vraiment très varié. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Cinzia Minotti. Donc, je le rappelle, vous êtes chanteuse du groupe Alberi Sonori et ce groupe va animer le bal de la Cosinada le vendredi 21 avril à la maison des Dolmens à Buzyn, près de Sévrac. Donc, à 19h, vous proposez une initiation aux danses traditionnelles et à 21h, le bal commence. Donc, voilà, n'hésitez pas, on aura le temps de l'annoncer à nouveau d'ici là. Et merci, Cinzia.
Merci à vous et on vous attend. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Ben oui, venir danser et chanter, tout à fait.
Exactement.
Merci.
Merci à vous. Très belle journée. Ciao.
À vous aussi. Ciao. Donc là, on a entend une autre musique et c'est Souria qui m'a rejoint en studio. Bonjour Souria.
Coucou.
Donc c'est une musique voilà, de film un peu iconique. On pourrait déjà comprendre de quoi il s'agit. Et donc c'est quel film?
Et oui, il s'agit de la musique du film Mon oncle dans ma dernière chronique sur le cinéma. Je vous avais dit que je vous en parlerais. Eh bien je suis là. Et je vais vous en parler de ce film qui, on peut dire, a bercé pas mal d'enfance, en tout cas pour ma part.
Pour moi aussi.
Alors, Mon oncle est un film de Jacques Tati, réalisé en 1956 et sorti en 1958. Il gagne le prix spécial du jury à Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger en 1958 et 59. Jacques Tati avait déjà produit des longs-métrages avant, comme Jour de fête ou Les vacances de Monsieur Hulot, qui d'ailleurs fut un succès. Mais il a conquis pas mal de personnes avec Mon oncle. Mon oncle est le premier film en couleur de Jacques Tati. Il raconte l'histoire du petit Gérard qui aime passer du temps avec son oncle Monsieur Hulot, un personnage rêveur et bohème qui habite dans un quartier populaire et joyeux de la banlieue parisienne. Les parents de Gérard, Monsieur et Madame Harpel, vivent eux dans une villa moderne et luxueuse où ils mènent une existence monotone. Un jour, Gérard rentre d'une énième virée avec son oncle, Monsieur Harpel, le père, prend alors la décision d'éloigner son fils de Monsieur Hulot. Il tente alors de lui trouver un travail dans son usine de plastique, tandis que sa femme lui organise un rendez-vous galant avec l'une de leurs voisines. Bref, ils essayent de leur faire rentrer dans la modernité.
Oui, tout à fait, mais on voit bien dans le film que Monsieur Hulot ne colle vraiment pas à ce monde moderne. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit bien dans la scène où il se trouve tout seul dans la cuisine de Monsieur et Madame Harpel.
Exactement, et c'est une scène qui, pour moi, est une des meilleures scènes dans ce film. Car ça montre bien son humour absurde tout en dénonçant la modernité envahissante et la société de consommation. Comme par exemple dans une des scènes dans la cuisine, tout est conçu pour ne pas se briser. Et Monsieur Hulot fait tomber une carafe, celui-ci rebondit. Donc il essaye avec un verre, mais il se brise.
Oui, tout à fait.
On retrouve un peu du Chaplin, de Charlie Chaplin, dans les aventures de Monsieur Hulot. Peu de paroles, comique de gestes, critique par l'absurde. Tati joue avec le comique de répétition, comme par exemple quand on voit Madame Harpel qui insiste à chaque fois à vouloir marcher sur les galets de son jardin pour pas abîmer sa pelouse. Au bout d'un moment, ça peut devenir ennuyant. Mais c'est aussi parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons de plus en plus de mal à avoir de la patience pour regarder un film lent et de profiter de chaque petit détail. La musique iconique du film qu'on vient d'entendre et les bruitages remplacent les dialogues et c'est justement les ambiances sonores qui transmettent l'atmosphère et l'énergie des personnages. En termes de cinématographie, c'est un chef-d'œuvre. Les plans sont filmés de façon à ce que rien ne soit inutile, au millimètre près, tout est réfléchi. Pour certains, ce film est sans importance, nul, n'y voit rien de spécial ou d'utile. Pour d'autres, c'est un film qui les a marqués, un film où tout y est. Je rejoins l'avis des deux, c'est un film qui est lent et peut être vite pénible à regarder, mais c'est aussi un film qui dénonce des choses qui, même maintenant 50 ans plus tard, sont toujours d'actualité. Il fait passer un message tout en utilisant de l'humour qu'on ne retrouve plus dans les films de nos jours.
Merci Souria et à la prochaine pour une autre chronique.
Ouais.
Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités Brigitte Dessault de Milieu 5 Sens. Merci à Clément Chauvet et Cinzia Minotti pour La Cosinada. Merci à Alex pour la participation dans le journal. Et merci à Nico à la technique. Donc cette émission est rediffusée ce vendredi à 19h. Merci à Souria encore une fois pour ta chronique d'ailleurs. Donc je disais, l'émission est rediffusée ce vendredi à 19h. Et ce soir, donc jeudi, Radio Larzac vous accueille à partir de 19h dans nos locaux à Millau pour une soirée de lecture autour de la folie. Mais vous pouvez aussi amener des musiques ou des chroniques. Ou alors, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes curieuses et curieux. Et très belle continuation à vous sur les ondes de Radio Larzac.